Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de Point & Think. Je suis Julien, et aujourd'hui pour cette nouvelle interview, je vais être accompagné de Turbo Joule, l'une des cofondatrices de Furax. Turbo Joule, c'est aussi quelqu'un qui a de nombreuses casquettes dans l'industrie du jeu vidéo. Elle a notamment travaillé comme community manager pour un studio de jeux vidéo indépendant. Elle est aussi sur YouTube depuis 2007, et sur Twitch également. Mais Furax, qu'est-ce que c'est? Pourquoi du coup on voulait interviewer Turbo Joule? Furax, c'est un événement caritatif qui s'est déroulé sur Twitch le mois dernier pour sa deuxième édition et qui assume vraiment une position politique importante. C'est un événement où les invités sont alignés avec cette position et ils viennent en tant qu'actrices ou en tant qu'alliés de ces combats, et notamment cette année autour du cyberharcèlement. Avec Turbo Joule, on revient donc un peu sur son parcours à elle, mais aussi du coup sur la création de Furax et sur cette deuxième édition. Donc sans plus attendre, on se retrouve après ce petit extrait musical pour l'interview. Bonjour Joule, et merci de bien participer à notre podcast aujourd'hui.
Bonjour, et merci à toi pour l'invitation.
C'est avec un grand plaisir, surtout avec Furax qui est passé il n'y a pas longtemps. On voulait en parler, puis il n'est jamais trop tard. Et qui dit mieux qu'une des cofondatrices du coup pour en parler.
Absolument.
Et pour commencer, simplement pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement?
Du coup, comme tu l'as dit, je suis Joule ou Turbo Joule sur les internets, puisque c'était déjà pris par un certain rappeur. et sinon, j'ai un peu beaucoup de casquettes parce que j'ai été youtubeuse depuis 2007. J'ai fait de la musique, j'ai fait de la vulgarisation de théorie psychosociale, puisque mon métier à la base c'était psychologue. Et finalement, avec mon diplôme de psycho, je me suis plus orientée vers la communication. Et je suis community manager pour un studio indé de jeux vidéo. Et à côté de ça, je suis streameuse. Je fais surtout de la politique et du jeu indé plutôt.
D'accord, c'était justement ma question d'après. Toutes ces casquettes, pour le coup, et tout qui gravite quand même autour du jeu vidéo. Mais comme tu dis, avec une formation psychologue. Comment du coup t'as évolué jusqu'à arriver dans les premières activités autour du jeu vidéo? C'était, je pense comme tout le monde, tu dois avoir une petite passion du jeu vidéo qui traîne, mais je vais pas te demander comment t'es tombé dedans, voilà. Mais un petit peu comment t'es arrivé dedans professionnellement, par contre.
En fait, quand j'ai eu mon diplôme, j'arrivais pas à trouver de travail dans des branches qui sont un peu plus, normales, quoi que ça veuille dire, quand on a un diplôme de psychosociaux comme moi. Qui était plus dans les bilans de compétences, le RH, tout ça, et ça m'intéressait pas des masses, déjà. Et en fait, j'avais un ami qui bossait dans un studio et qui m'a dit ça marche très bien de faire du community management avec le diplôme que t'as, et surtout avec la présence que t'as sur les réseaux sociaux, parce que j'avais déjà une forte présence sur les réseaux sociaux.
Okay.
Et ça s'est fait comme ça, en fait, j'ai postulé et j'ai été prise, et voilà.
Et du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton métier de community manager? C'est un profil qu'on n'a pas encore eu sur le podcast. Voir un petit peu en quoi ça consiste et comment t'es impliqué du coup avec le studio.
En gros, je bossais pour un studio indé qui n'avait pas encore sorti de jeu à l'époque où j'ai été embauchée. Donc en fait, c'était vraiment du développement de communauté, arriver à créer et engager une communauté autour du jeu. Ça se traduit par animer un Discord, faire des posts sur les réseaux un peu classiques, genre Twitter, Instagram. On essaie un peu de se mettre sur TikTok parce qu'il y a moyen d'avoir beaucoup de visibilité très vite aussi.
J'ai l'impression que TikTok, c'est un bon relais, surtout pour les jeux indépendants de plus en plus. Je pense qu'on a tous, plus ou moins, la génération qui arrive sur les 30 ans, des a priori sur TikTok, alors qu'il y a une scène de jeux vidéo indépendants qui est incroyable. En tout cas, pour tout ce qui est devlog et tout, c'est quelque chose que j'essaie d'aller voir. Il y a un vrai truc de partage et de reach, comme tu dis. Ouais.
Bah surtout, ce que j'ai tendance à remarquer, c'est que tu vas avoir des tags ou des thèmes qui vont avoir beaucoup de succès. Des vidéos, par exemple, on va prendre un jeu, on va dire les jeux cosy. Les jeux cosy, y a très peu de jeux qui sont sur TikTok, mais par contre, dès qu'une personne fait un post sur les jeux cosy, ça marche beaucoup. Donc c'est vraiment tu vois, c'est un truc que les studios ont tendance à un peu laisser de côté, TikTok, parce que c'est vrai que ça demande du travail et de l'implication. Mais ça a le potentiel de marcher très fort. Donc, c'est vraiment. C'est un truc qu'il faut prendre en main, je pense, TikTok.
Ouais, bah j'ai l'impression de plus en plus. Bah, puis de toute façon, le contenu visuel pour du jeu vidéo forcément fonctionne. C'est pas
Il faut
voilà.
avoir un jeu plutôt mignon ou en tout cas joli, quoi. C'est un peu le problème.
Bah, c'est quelque chose qu'on a souvent là. On a fait pas mal d'interviews avec des bah, soit des solo devs qui vont pas tarder à arriver sur le site, soit avec des toutes petites équipes. Et il y a ce truc-là qui ressort souvent, bah, notamment avec l'équipe de Chains of Senar, c'était d'avoir un visuel qui ressort vite. Qui marque, bah du coup, qui marque bien forcément. TikTok, c'est exactement ça. C'est presque en 3 secondes, il faut que tu aies capté l'attention. Donc, ouais, il y a ce pari-là forcément.
Bah, je pense que Chance of Scénar, ils ont bien réussi sur avoir un visuel qui attire l'œil.
Ça va. L'inspiration était là. Et ça, bah, ça va m'amener tout doucement aussi à parler un petit peu de ce que tu fais sur Twitch. Comment ça a commencé? Comment tu t'es dit, je vais aller sur Twitch pour ne serait-ce que jouer, streamer comment, ça a été quoi un petit peu les premiers pas pour toi?
Comme je te disais, j'étais youtubeuse depuis des années. Et le truc, c'est que bah, YouTube, ça demande beaucoup de travail, que ce soit en amont, pendant que tu filmes la vidéo, et de montage, pour très peu d'avantages, quoi. Genre, tu es très mal payé sur YouTube. C'est pas toujours facile d'avoir de la visibilité. Et en fait, pendant le confinement, j'étais confinée avec une amie qui avait un peu streamé, et elle m'avait dit, bah, viens, on stream ensemble. Et du coup, bah, un peu comme une bonne partie des streamers actuels, j'ai commencé en 2020, pendant le confinement. Et même quand mon ami est parti après le confinement, bah ça me plaisait bien, parce que ça me permettait de créer du contenu comme j'avais toujours fait, mais sans que ça me demande trop de travail et que ça empiète sur bah, ma vie professionnelle à côté ou ma vie personnelle. Et surtout, bah, j'ai beaucoup aimé le fait de parler directement avec les gens et de pas attendre d'avoir des commentaires, etc., quoi.
Bah la vraie interaction. Bah, je pense que ça matche un petit peu avec ce que tu faisais en community management, par exemple avec les Discord, où tu as vraiment une interaction plutôt que de faire des posts et d'attendre des commentaires.
Et du coup, oui, au début, je faisais que jouer à des jeux vidéo, pardon. Et majoritairement des jeux, parce que plutôt du rétro gaming et du point and click qui était vraiment mon genre préféré. Genre, j'ai fait des Monkey Island, Broken Sword, tout ce genre de jeux. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais aussi faire d'autres choses et pas que du gaming. Et comme bah, sur Twitter, j'étais plus connue pour mes positions militantes et politiques, bah, je me suis dit, viens, on va essayer de faire ça aussi sur Twitch. Et finalement, c'est ce qui marche le mieux.
Ok, bah ça va nous amener doucement sur Furax, comme on en parlait au début. Bah, j'ai revu du coup il y a. Alors, on mettra toutes les informations de toute façon en description. Il y a quasiment, je crois, toutes les conférences qui sont sur la page YouTube de Furax. Bah, c'est quelque chose qui a commencé il y a 2 ans. Je vais te laisser en parler mieux que moi pour le coup, mais comment du coup l'idée est née de faire cet événement caritatif et de le faire sur Twitch?
En fait, c'est suite à un harcèlement que j'ai subi, qui a duré plus d'un an, avec la personne qui avait retrouvé mon adresse, etc., la police qui faisait rien. J'avais eu la chance, moi, qu'on me prête de l'argent pour pouvoir payer un avocat, parce que ça coûte très cher, un avocat. Et je me disais que, genre, en fait, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là d'avoir dans leur entourage des gens qui peuvent les aider et qui doivent se retrouver très démunis, enfin, des femmes plutôt, je dis des gens, mais c'est majoritairement des femmes. Et un jour, j'étais chez Nathalie, la streameuse qui a co-créé Furex avec moi, et je lui ai dit, ce serait trop bien qu'on puisse faire un événement caritatif, un peu comme le Z-Event, mais bon, forcément à notre niveau, et surtout beaucoup plus politisé, sur les violences faites aux femmes, et qu'on trouve une asso qui accompagne juridiquement, moi je voulais vraiment une asso qui accompagne juridiquement les femmes victimes de violences, parce que enfin, c'est vraiment des trucs où on est un peu perdu, déjà que la police a tendance à pas trop faire son travail. Si en plus on n'a pas nous un avocat qui les bouge un peu, c'est compliqué. Et du coup ça s'est lancé comme ça. On a trouvé une prod, on a monté une équipe surtout parce que c'est pas un truc qui est faisable à deux. Hein, on est neuf à l'orga. Et ça s'est lancé très rapidement. Franchement, en 3 mois, on avait lancé le. Ouais, on avait lancé les. Oui. C'était un peu. Ça se voyait qu'on avait eu que 3 mois pour le préparer. Mais on a quand même réussi à lever 57 000 euros pour donc une asso qui s'appelle Elles Imagine et qui vient en aide juridiquement donc, et aussi psychologiquement, qui apporte un soutien psychologique aux femmes victimes de violences. Et pas que, hein, aux personnes victimes de violences, mais c'est majoritairement les femmes. Comment ça a bien marché? On a remis ça cette année en ayant un an entier pour organiser, donc c'était beaucoup plus pro, on va dire. Et cette année, on a voulu travailler sur le cyberharcèlement parce qu'il y a eu une actu sur le cyberharcèlement qui était assez vénère cette année. Hein. Je pense notamment à Manon Lanza sur le GP Explorer, mais pas que. Et du coup, on a choisi l'assaut féministe versus cyberharcèlement. Et on a levé 150 000 euros à peu près. Ça, c'était. On ne s'y attendait pas.
pour une deuxième édition, c'est un succès, pour le coup. Puis il y a eu une vraie couverture. On avait notamment vu qu'il y avait Origami qui avait fait tout un stream tout le week-end avec plein de conférences. Et c'est ce mélange-là aussi sur lequel je voulais revenir. Justement, c'est pourquoi avoir choisi de faire ça sur Twitch, par exemple, plutôt que de faire ça en réel. Tu mentionnais quand ça s'appelle Zerator, par exemple. Et pourquoi, du coup, avoir eu ce mélange entre conférences et aussi juste du stream de jeu? Comment vous organisez un petit peu tout ça?
En fait, oui, on voulait faire comme les Ad Events, c'est-à-dire qu'on était dans des locaux, en fait, avec plein d'autres streamers. Y avait aussi des streamers et des streameuses qui étaient à distance. Mais en fait, on aimait bien ce côté, c'est un peu la fête de se retrouver tous dans la même pièce, à faire un peu ce que... Chaque streamereuse fait un peu ce qu'elle veut, genre c'est un peu... à la bonne franquette, mais comme on traitait quand même des sujets sérieux, c'est pour ça qu'on a voulu faire aussi des tables rondes, des conférences et tout ça. Donc sur la première édition, on avait des tables rondes sur les sujets qui étaient liés aux violences faites aux femmes. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était quand même très lourd. Donc ce qu'on a fait cette année, c'est que on avait des conférences sur le cyberharcèlement et d'autres sujets qui touchent les violences faites aux femmes, mais on avait aussi des jeux, des moments un peu plus fun. Histoire de que ce soit pas trop lourd pour nous déjà, premièrement, et puis aussi pour nos invités.
Ce que j'allais dire, ne serait-ce que pour vous, pendant 48 heures, pendant tout un week-end, avoir ça. Ça, il y a le côté, c'est important, mais il faut respirer peut-être aussi entre deux conférences.
C'est pour ça, là, je pense que cette année, on a bien trouvé le rythme de... on traite des sujets sérieux, mais on s'amuse aussi.
Non, complètement. Et cette année, vous aviez aussi Afro Gameuse, du coup, qui vous a accompagné pour co-organiser. Ils étaient déjà dans les participants de la première édition, c'est ça?
C'est ce que j'allais dire, oui. Du coup, en fait, nous, sur la première édition, on les a invités parce que c'est quand même une asso qui est très présente dans le milieu du jeu vidéo. Donc, c'est une asso que Nat, moi et les autres personnes de l'organisation connaissaient. Pour nous, ça semblait normal qu'elles viennent. Et aussi parce que c'est quand même leur métier, c'est de leur mission, pardon, c'est de promouvoir la diversité, et on voulait qu'il y ait de la diversité à Furex, on voulait pas que ce soit un énième événement entre blancs, même si pour une fois c'était pas un événement entre mecs. Mais c'est quand même quelque chose qui a été un peu raté sur la première édition, et qu'on nous a reproché à juste titre, c'est que on était quand même, même s'il y avait des personnes racisées, on était quand même une très grande majorité de blancs, et c'est pour ça que sur la deuxième édition, on a mis deux personnes d'Afro-Gameuse directement à l'organisation, et donc c'est co-organisé avec Afro-Gameuse, qui fait que sur l'organisation, sur l'événement pardon, cette année, on avait quand même beaucoup de diversité. Même si on a encore eu des reproches cette année, encore une fois valides, c'est que ça manquait de personnes trans, et en particulier de femmes trans. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on bossera l'an prochain. Et je trouve ça bien justement que dans ce genre de milieu, on ait la possibilité d'avoir de la critique, légitime en fait, et qui est constructive, et qui nous permette nous de nous améliorer et de faire mieux les années d'après.
Ce que je voulais dire, justement, c'est constructif. Je pense que la première édition, comme tu le disais, en 3 mois, c'était oui, surtout, je pense, la course à l'organisation plus que la prise de recul. Donc là, en 3 ans, c'est... Même pour revenir un petit peu sur la somme que vous avez eue, les 150 000 euros, c'est un vrai succès, je pense. Enfin, je sais pas quelles étaient vos attentes, mais c'est... Ne serait-ce que 10 euros récoltés pour une association, c'est génial, donc 150 000.
Oui, nous, on avait dit, si on arrive à 100 000, ce serait trop bien, et au final, on a 150 000, donc...
C'est génial. Du coup, j'imagine pour le futur, ça doit donner encore plus envie. Parce que ne serait-ce qu'entre la première édition et cette année, là, cette année, vous aviez eu vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, ou qui n'ont pas vu les conférences, vous aviez vraiment un plateau. Donc, c'était vraiment... Ça faisait une vraie impression professionnelle, pour le coup, pour toute la mise en scène. Ça serait quoi, un petit peu, vous, les plans pour le futur? Par exemple, vous mentionnez sur le site de la création de contenu éducatif, de la sensibilisation. Est-ce que vous avez, du coup, déjà des choses en tête?
on n'est pas très longtemps après Furax là, en soi, donc peut-être pas tout de suite.
Oui, on n'a rien de vraiment concret, mais on aimerait utiliser la chaîne Twitch de Furax pour toute l'année, en fait, pour faire des petites... pour les membres de l'organisation, mais aussi les participants et les participantes, si elles veulent proposer du contenu éducatif sur la chaîne. C'est quelque chose qu'on aimerait pérenniser, ouais, histoire d'avoir une chaîne plutôt active et d'avoir une asso qui sert tout le long de l'année et pas que sur un événement... Mais après, enfin, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. On n'a pas encore commencé à l'organiser parce qu'on sort tout juste de Furax, donc je ne sais pas dans quelle mesure ce sera possible, mais c'est ce qu'on aimerait faire, oui.
Pour revenir un peu sur le partenariat que vous avez fait avec Féministes contre le cyberharcèlement, du coup, le partenaire, l'association qui était derrière aussi Furax, pour la deuxième édition, j'ai l'impression que là, le cyberharcèlement, c'est devenu un sujet de plus en plus médiatique depuis 8 ans, dans le sens où c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans des gros médias, je mets des guillemets, mais sur des médias nationaux, sur des vraiment plus que sur de la média niche, et plus que sur des médias jeux vidéo. Il y a eu quand même des avancements. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a des avancements qui ont été faits en la matière depuis quelques années? Ou est-ce que justement, Furax est là pour ça, notamment pour des événements comme ça, mais quels avancements tu vois qu'on pourrait faire encore, par exemple, dans la matière?
C'est
une vaste question.
Je suis assez pessimiste, j'ai pas l'impression qu'on ait avancé tant que ça. Je pense que l'avancée principale, c'est qu'on en parle et que c'est pas stigmatisé. C'est moins stigmatisé, parce que c'est vrai qu'au début, quand tu disais que tu subissais du cyberharcèlement, on te disait ferme ton PC et va faire autre chose, tu vois, comme si ça résolvait tous les problèmes. Donc là, je pense qu'on est quand même à des niveaux où on sait que c'est sérieux le cyberharcèlement et on sait que c'est un problème. Mais la police n'est toujours pas formée à prendre les plaintes et surtout à les résoudre, quoi, à trouver la personne. À moins que tu t'appelles Nadia Adam, on va pas s'emmerder à retrouver les personnes qui t'ont harcelé et à faire un vrai procès. Donc, enfin, justement, c'est quelque chose avec lequel on a parlé avec Féministes versus cyberharcèlement, c'est que elle, au début, elle prenait en charge les victimes. Et sauf qu'elles se sont rendues compte que c'était déjà très dur pour elles, et surtout que c'était pas leur travail, c'est l'État qui devrait faire ça, et c'est pas les associations, c'est un vrai échec de l'État, le fait qu'il n'y ait pas une plateforme qui soit là pour accueillir les victimes de cyberharcèlement. Donc en fait, elles ont arrêté de prendre en charge les victimes, elles les écoutent toujours, elles les renvoient vers des endroits où elles peuvent en parler. Mais elles, maintenant, ce qu'elles font, c'est vraiment de l'éducation, c'est-à-dire qu'elles vont aller faire des formations à la police, notamment, mais aussi dans des milieux scolaires, des milieux professionnels, etc.
Mais j'imagine en entreprise, l'exemple que tu disais au début, c'était vraiment ça. Je pense que le cyberharcèlement, pendant longtemps, une réponse, je pense, de mec, hein, pour le coup, c'était de te dire, si tu es exposé, il faut s'attendre à ça.
Oui.
Tu étais encore une fois, ça, un discours de l'optimisation sur la femme. Donc, c'est bien passé au-delà de ça, peut-être. Mais c'est, même sans rentrer sur ma vie privée, mais il y avait personne proche de ma famille qui bossait qui c'était pas la DAS, mais c'était l'étape avant la DAS, pour le coup, qui était éducatrice. Et qui était ça, en fait, elle était là pour accompagner justement des jeunes mères avec des enfants en étant célibataires pour aller à la police. Mais c'était elle, les éducatrices, qui étaient censées faire ça, alors qu'encore une fois, malheureusement, c'est pas censé être leur métier, pour le coup. Ils sont censés rester dans ces foyers d'accueil. Foyers d'accueil, c'était le mot. Et pas voilà, justement faire tout ça, donc c'est... Non, du coup, la Furax prend tout son chance. Surtout en ce moment où on a... malheureusement, comme tu disais, il y a trop d'exemples. Il y en a plus médiatiques que d'autres, mais il y en a tout le temps.
Oui, et puis c'est quelque chose que Nat avait dit en interview et qui est très vrai, c'est que de temps en temps, tu vas avoir une streameuse connue qui va, comme Magla l'an dernier, qui va faire un thread pour dire qu'elle en a marre du cyberharcèlement, et puis tu vas avoir les streamers mecs qui vont se réveiller en disant « Ouais, je savais pas que tu subissais tout ça, soutien, machin », et pendant 2 jours, on va parler de ça, puis après, ça va faire comme si ça y est, c'était réglé, on est au courant, donc après, ça n'existe plus, tu vois. Enfin...
C'est un petit peu le côté les mois de la Pride dans les grandes entreprises. J'ai pu bosser dans les grandes boîtes, c'est ça. C'est le mois de mai. Ce mois-ci, on sort tous les drapeaux qu'il faut. En juin, on y retourne, par contre, on va pas trop rigoler.
C'est l'inverse, c'est en juin, non, le Pride Month
C'est possible, j'ai dit des bêtises là-dessus, mais le côté, en tout cas, ça dure 30 jours et après, bon, merci,
on
retourne
bosser. On en parle plus.
Faudrait pas trop que ça dure. Ça, en soi, je pense que c'est une question que moi je l'ai personnellement, mais je pense qu'il peut intéresser notre équipe, c'est que même nous en soi on s'est créé, on est une majorité de mecs chez Point & Think, parce que ça fait pas très longtemps qu'on existe non plus, donc on s'est constitué comme ça. Et on voit en soi les cas de harcèlement qui arrivent en ligne. On en voit de plus en plus. Et le truc, c'est qu'on les voit qui se font, on va dire, pré-shot. J'ai pas envie de le nommer pour pas donner, lui donner visibilité, mais une certaine personne, en tout cas, qui te dit dans 2 jours, je vais faire une vidéo très nominative contre le Game Dolls Advance. Ça, en soi, on peut les nommer. Il y a le côté en soi très... Comment nous agir, tu vois, par exemple, en tant qu'homme dessus? Parce que comme tu dis, c'est on peut l'acknowledge pendant 2 jours et merci, mais c'est pas suffisant. On peut pas empêcher quelqu'un avec des tweets de balancer des vidéos comme ça. Ce serait quoi, par exemple, des conseils au quotidien? Je dis bien au quotidien, justement, pour faire attention à tout ça. De dénoncer, j'imagine, tous les jours, de les renvoyer, mais... La question est floue, mais en gros, c'est de trouver la bonne balance, je pense, entre eux. Ne pas donner de visibilité, justement, à ces harceleurs, les mecs qui font ça. Mais quand même, tu vois, donner le soutien, mais comme tout passe par Internet... Ce serait quoi, par exemple, des conseils que tu pourrais avoir?
J'ai pas de solution miracle, hein, sinon ce serait trop simple. Mais oui, comme tu dis déjà, il faut réagir, tu vois, si tu vois. Enfin, je pense que si on voit un mec qui commet du harcèlement sur n'importe qui, en vrai, mais c'est majoritairement sur les femmes, bah, il faut lui répondre, en fait. Il faut lui dire qu'est-ce que tu racontes. Il faut lui rentrer dans l'art, parce que ouais. En fait, en ignorant, en faisant comme si ça n'existe pas, bah, lui, il verra jamais le problème, il va continuer. S'il y a que les femmes qui vont lui rentrer dedans, il va se dire, bah, c'est juste des féministes extrémistes, elles sont folles, tout ça. Alors que si bah, tout le monde s'y met, évidemment, là, tu vas commencer à peut-être à te poser des questions, on espère en tout cas. Et puis après, c'est aussi nettoyer un peu son entourage, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que bah, au bout d'un moment, si on a, que ce soit IRL ou sur Internet, des amis ou des connaissances qu'on ressent très bien être... sexiste, misogyne, homophobe, ce que tu veux, raciste, en fait, faut pas rester en contact avec ces gens-là, quoi. Et je dis pas que personne a le droit à l'erreur d'avoir fait une fois une petite réflexion ou je sais pas quoi, mais genre, quand tu vois que c'est un truc qui est systémique, y a plus de pardon à avoir si la personne se remet pas en question, quoi.
Je pense que c'est le bon truc, justement, de faire un retour à la personne et de voir comment la personne réagit. Comme tu dis, si c'est qu'une fois, puis justement, la personne réagit, s'excuse et passe à autre chose. Tant mieux, comme tu dis, personne n'est parfait, si ça continue. Mais il y a une de vos conférences, du coup, de la deuxième édition, qui est justement là-dessus, comment faire quand on a des proches, justement, qui commencent à être borderline, sans verser dans le harcèlement, mais qui, en tout cas, commencent à avoir des propos très borderline, qui est super intéressante à regarder.
Ouais, c'est un sujet compliqué, en plus. Pareil, ils ne donnent pas la solution. Hein, de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Oui, mais oui, c'est vrai que c'était intéressant. Je crois que c'est une des seules que j'ai regardées pour l'instant, parce que je n'ai pas eu le temps de tout rattraper. Mais oui, c'était celle que je voulais regarder en prio et je n'avais pas pu la regarder sur le moment.
Et en termes d'organisation, comment ça s'est passé, du coup, le choix des intervenants et des conférences? C'est quelque chose que vous avez choisi, je pense, toutes les 9, du coup. Est-ce qu'il y avait... le focus, là, du coup, était sur le cyberharcèlement, mais comment ça s'est fait un petit peu le choix? Vous aviez fait, par exemple, c'est pas un appel d'offres, c'est pas le mot, mais vous aviez ouvert un petit peu la conversation et vous avez reçu des propositions?
Non, en fait, comme on est très... on a une charte éthique qu'on a envie d'absolument respecter et que ce soit... Qu'on ait dans nos invités que des personnes qui sont en alignement avec nos valeurs à nous. On fait pas trop d'appels, en fait. C'est nous qui allons piocher dans les streameuses qu'on connaît et qu'on sait safe, ou qu'on pense qu'on safe, et qui les avons invitées. Après, elles ont dit oui ou non, mais... Et pour ce qui est de l'édito, en fait, c'est nous qui avons proposé des tables rondes à l'Orga. Et on s'était mis... Enfin, celle ou celui qui proposait se mettait comme organisatrice, et voilà, quoi. Je crois qu'on a accepté une ou deux tables rondes de quelqu'un d'autre, notamment celle que tu as mentionnée sur les proches qui glissent dans vers le... Il dit pas à l'extrême droite, mais c'est à ça qu'on pense. Ça, je crois que c'est quelqu'un du collectif Perso Caché qui l'avait proposé.
D'accord, ok. Parce que je me permets de demander, parce que justement, ça offre une large gamme d'intervention, du coup, qui couvre vraiment tout le spectre du harcèlement. J'allais dire cyber, mais pas que, pour le coup. Vous avez gardé, du coup, l'angle jeu vidéo, parce que je pense que c'est tous de là d'où vous venez. En tout cas, enfin, de manière... En tout cas, ne serait-ce qu'avec Twitch et tout ça, mais peut-être pas forcément.
Non, c'est parce que on avait un sponsor... On était sponsorisé par le... Si on a autant, on a une journée entière en fait le samedi qui était dédiée aux jeux vidéo, et c'est parce que on avait un financement du CNC. Donc en gros le financement du CNC il est sur le jeu vidéo. Donc il fallait que la journée qui était sponsorisée par le CNC elle tourne autour du jeu vidéo, et enfin nous ça nous allait très bien parce que bah, déjà on est beaucoup de gamers et de gameuses dans les streamers, et bah, on est pas mal à bosser ou avoir bossé dans le jeu vidéo dans l'orga en fait.
Bah c'est et puis c'est bien aussi de voir je pense une aide de l'État comme ça s'investir dans un projet comme sur Axe. J'imagine c'est bah c'est des deux demandes que vous faites, mais c'est toujours bien de voir que c'est accepté aussi. Est-ce que Furax, vous voulez l'étendre ensuite du coup à d'autres médiums? Là, c'était encore une fois, c'était via cette sponsorisation, ce partenariat, que du coup là, il y avait une journée du coup sur les jeux vidéo. Je pense même avec les organisatrices afro-gameuses qui viennent aussi du jeu vidéo. Est-ce que vous voulez étendre ça un petit peu à d'autres médiums ensuite, ou garder ce focus justement sur le JV?
Pour l'instant, c'est pas d'actualité. On va continuer tel que c'est actuellement, mais après, enfin, si on a des opportunités qui s'offrent à nous, on y réfléchira, mais c'est pas quelque chose qu'on recherche activement en tout cas.
Et j'ai une question, je crois que c'était une des thèmes des conférences, mais ne serait-ce que pour les gens du coup qui n'ont pas vu Furax ou qui veulent soutenir, comment est-ce qu'on peut rester Furax jusqu'à la prochaine édition?
Eh ben, on peut adhérer déjà à l'association en allant sur le site onestfurax.fr. L'adhésion, elle coûte 5 € par an et c'est pas un renouvellement automatique. Hein, donc, on vous soutire pas 5 € par an si vous oubliez de vous désabonner. Hein. et du coup, bah, quand on adhère à l'asso, bah, déjà, on soutient financièrement l'asso, mais surtout, bah, on a accès au Discord. Et dans le Discord, bah, y a moyen de parler avec l'orga, si on a des idées, des feedbacks à donner, etc. Donc, ça, c'est une grande aide. Et puis on est sur Twitch, on va essayer de le maintenir toute l'année. Là, cette semaine, on stream pas mal. Justement, on fait un peu nos retours sur Furax 2024. Donc bah oui, pour soutenir Furax, il y a les réseaux sociaux et l'asso. Quoi.
Là, par exemple, pour vous, niveau organisation, moi je sais que c'est encore le futur, mais comment ça se passe dans l'année, par exemple, pour organiser tout ça? Est-ce que c'est pour chercher la salle, pour chercher les intervenants? C'est quelque chose que vous organisez plus ou moins toute l'année du coup, vous neuf, ou ça se passe plus au fur et à mesure des rencontres?
Bah, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que en fait là pour la salle c'est notre prod en fait, c'est là, eux qui ont les locaux, donc ça allait ensemble. On n'a pas eu à rechercher de salle en fait, on a juste signé avec eux et voilà. Mais après par contre on bosse quasiment toute l'année, ouais, enfin je vais pas dire une année entière, mais je pense facile 9 mois, tu vois, où on travaille à trouver les thèmes, tout ça, à trouver les sponsors, parce que c'est ça surtout, il a fallu trouver qu'est-ce qu'on allait donner à manger aussi aux personnes qui étaient sur place, trouver un hôtel pour et payer le train pour celles qui viennent de plus loin, etc. Enfin genre c'est il y a beaucoup de choses à organiser sur toute l'année.
Bah, c'est important, je pense, aussi pour nous, pour voir un peu l'organisation, pour sortir du côté. Ça se passe sur Twitch, du coup, ça va. C'est un vrai truc professionnel, pour le coup, qui est mis en place derrière.
Bah, après, c'est bien qu'on ait justement presque une dizaine, parce que tout le monde a un peu des casquettes différentes. On a des personnes qui sont un peu plus calées sur l'administratif et la compta, ce qui m'arrange beaucoup, parce que moi, c'est vraiment mon talent d'Achille. Et après, on a des personnes qui vont être plus sur l'édito comme moi, ou qui vont être plus sur la com comme Cosima, qui est notre chargée de com. Enfin, voilà.
Encore une fois, le meilleur moyen, là au moins vous avez un petit peu l'idée pour vous qui nous écoutez de ce que c'était cette année. Le meilleur moyen ensuite, c'est d'aller voir du coup ce qui s'est fait. Encore une fois, tout sera en description.
Oui, il y a les replays sur YouTube.
Ouais, c'est ça. Puis c'est des conférences de plus ou moins une heure, je crois, un peu plus, un peu moins. Je crois que la plus courte, c'est peut-être une demi-heure, mais c'est largement écoutable quand vous allez au travail ou en travaillant, selon ce que vous faites.
Et il y a aussi sur le site, il y a tous les participants et participantes qui étaient là cette année. Et il y en a quelques-uns et quelques-unes qui ont fait des vidéos best-of qui sont très drôles. Je pense notamment à Maudie qui a fait un best-of très très drôle. Ça m'a remis dedans de le regarder.
Puis avant de conclure tout doucement, moi j'aime bien poser la question à chaque fois pour savoir aussi un petit peu le profil de gamer, de gameuse qu'on a. Tu joues à quoi en ce moment? Et ce serait quoi le jeu qui t'a marqué l'année dernière?
Alors, le jeu qui m'a marqué l'année dernière, c'est Chains of Sennar. Je pense que ce jeu m'obsède. J'arrive pas à passer à autre chose. Vraiment, c'était une expérience genre complètement nouvelle. tout en étant un peu resté dans la familiarité du point and click, en fait, finalement, comme moi, c'est un de mes genres préférés, genre, j'étais vraiment, c'était vraiment super pour moi, mais vraiment toute cette... déjà le côté narration sans vraiment avoir de vrais gros dialogues, plus le fait de d'avoir toute les différentes langues que tu dois apprendre, mais sans que ce soit chiant, tu vois. Enfin, moi j'avais un peu peur quand on m'a donné le synopsis du jeu, j'étais là, oh, ça doit être chiant là, tu dois apprendre une langue et tout, alors que non, pas du tout. Au final, c'est super intéressant comme concept et super marrant à faire. Enfin, vraiment, comme je te dis, j'arrive pas à trouver un jeu que j'aime plus depuis, j'ai vraiment du mal.
Truc qui est étonnant en plus dessus, sur un... c'est un jeu, comme tu dis, c'est un jeu point and click. C'est que je trouve, on va pas spoiler, même si ça fait un moment qu'il est sorti, mais la dernière partie du jeu, quand on doit reconnecter, il y a un flow fantastique qui se crée sur un jeu point and click un peu lent de langage. Quand tu dois tout reconnecter, je me rappelle cette heure où t'es juste... C'est ça, quand tout se met en place dans ton cerveau et t'as une dopamine qui se déclenche qui est incroyable.
Moi en plus je l'avais fait en stream et genre c'était trop bien de voir les réactions des gens aussi en mode oh là là, mais oui c'est ça. je conseille aux streamers de le faire en stream. Et sinon le jeu auquel je joue en ce moment, c'est pas un jeu récent, mais c'est c'est House Flipper, le 2 du coup qui est sorti cette année. Et j'avais déjà, je vais regarder tout de suite pour te dire combien j'ai d'heures sur le premier. Merde, ça s'affiche plus. Ah, mais j'avais plus de 300 heures en tout cas sur le premier, donc c'était. On est sur un jeu auquel je joue beaucoup. Voilà. Et le 2, je suis en bonne route aussi pour avoir pas mal d'heures, mais en fait c'est parce que c'est des jeux auxquels je peux jouer en faisant autre chose, tu vois. Enfin, je peux me mettre une série et jouer à House Flipper. Pas obligé de faire que le jeu et du coup vraiment dès que je regarde une série je me lance House Flipper. Donc c'est pour ça que je joue beaucoup.
Je crois que c'était, je sais plus, c'était Silence on joue Origami qui avait parlé de jeux comme ça, justement des jeux à podcast où justement tu les lances, oui. Mais tu sais que tu peux t'écouter autre chose en même temps. Typiquement.
Mais tu peux vraiment pas faire ça avec Chains of Sennar par exemple.
Ouais non. Mais ça se passe pas, mon dieu, 300 heures sur Chains of Sennar, pourquoi, mais c'est pas un jeu qui s'y fait forcément.
J'ai beaucoup, beaucoup d'heures sur Unpacking, alors que c'est un jeu qui doit durer 2 heures en tout, tu vois. Et juste, je le recommence en boucle. Mais parce que pareil, en fait, c'est un jeu où tu dois juste ranger. Donc, moi, ça me détend. Et en plus, je peux mettre un film ou autre chose à côté, quoi.
C'est un jeu qui a un côté très satisfaisant. Puis même si t'as l'histoire, c'est pas grave. En soi, si tu le refais, au pire, sans l'histoire, t'auras pleuré la première fois.
Mais en plus, il n'y a pas de dialogue. Il y a une histoire, mais il n'y a pas de dialogue. Donc c'est... Enfin, justement, je trouvais ça très fort sur Unpacking, c'est d'avoir autant de narration sur un jeu qui n'a pas de dialogue, quoi.
C'est ça. Et puis, histoire de finir, est-ce qu'il y a un jeu que t'attends particulièrement cette année?
Pas tellement, en fait. Je suis désolée, je vais décevoir les gens, mais...
J'ai l'impression que les grosses annonces, en tout cas les gros jeux, c'était plus ou moins en début d'année, les Rebirth, les Dragon Dogma, les machins comme ça.
Après, je suis pas très gros jeu. Non, je suis pas très triple A, à part les jeux Nintendo, parce que je suis une enfant Nintendo, j'ai grandi avec, tu vois. Genre, quand il y a un nouveau Zelda, ça me refait ma vie, mais... mais après, ouais, genre... Je suis plus... je joue plus à des jeux indés, et si tu veux, j'ai pas de... d'énormes attentes sur ce genre de jeu, juste je check un peu régulièrement et quand il y en a un qui me plaît, je l'achète, quoi. C'est pas des trucs que j'attends en amont, quoi.
Puis ça va être la bonne saison et on va commencer à arriver sur tous les festivals, les Day of the Dev, etc. Donc,
oui, il y a Games Made in France.
Si on avait manqué d'offres.
Oui.
Ouais. Oh, ouais, la saison commence dans pas longtemps.
Et ça, on aime.
Génial. Ouais. Bah écoute, ça nous a fait un bon petit tour sur ton profil, sur Furax. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter avant qu'on raccroche?
Vu qu'on parlait des jeux indés, justement, je voulais juste rappeler qu'on a vraiment une très bonne scène indé française, avec genre beaucoup de jeux vraiment de qualité. Et pour travailler dans le milieu, je trouve qu'il y a aussi une ambiance à laquelle je ne m'attendais pas avant de travailler dans l'indé, justement. C'est qu'il y a tout un esprit d'entraide, pour avoir fait des Paris Games Week ou EGX, etc. Il n'y a pas de, de concurrence, en fait. C'est vraiment, on s'aide entre nous, on s'aide à installer ensemble. Enfin, et je trouve ça trop bien d'avoir déjà un milieu où, comme on disait tout à l'heure, tu as l'État qui aide avec le CNC. Et plus, genre, on s'entraide entre nous. Et c'est pas, enfin, c'est un milieu qui est, même si ça reste du jeu vidéo, il y a du sexisme dans certains endroits, mais ça reste un milieu plus safe que ce que j'avais imaginé, en fait, avant de travailler dedans.
Non, complètement, c'est... je regarde quand est-ce qu'on publiera. Ouais, pour en parler. On est en train de faire un format qui va être sur les solo devs, pour le coup, français.
Ah oui, trop bien.
Et c'est intéressant de voir, en fait, ça, pour le coup, c'est... On fera sûrement d'autres pays après. Là, pour le coup, on va faire une saison sur les Français avec 7 solo devs. Vous aurez tout sur Internet, vous aurez rien de plus là. Mais c'est marrant de voir, justement, l'émulsion qu'il peut y avoir en France ou à quel point... À minima, les informations sont accessibles et qu'on a des événements comme le Stunfest, le Spawn qui existe à Angoulême, justement pour mettre en avant les tout petits studios, vraiment des tout petits studios. On a Arte en France qui existe et qui, même s'ils ont tendance maintenant à avoir d'autres, à plus focus que sur la France, qui ont fait des très belles choses. Le travail de focus, comme disait Chains of Senar, c'est le meilleur exemple, quoi. Ils l'ont poussé jusqu'à arriver au Games Award avec ce que ça vaut comme récompense, mais à minima, le jeu a été sur une scène internationale, ça a dépassé les frontières de la France, quoi. C'est. Je ne peux que plus soir. En tout cas. Génial. Écoute, merci beaucoup, Jules, en tout cas, d'avoir participé à ce podcast.
Merci
avec moi.
À toi.
Encore une fois, on mettra tous les liens en description. Le petit rappel, histoire d'eux, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires après le podcast et à mettre des étoiles sur les applications comme Spotify ou Apple. C'est le petit truc à dire, mais ça permet à des gens qui ne sont pas familiers de notre contenu de tomber sur nous par moment. Donc voilà, n'hésitez pas, puis on se retrouve très bientôt pour des prochaines émissions. À bientôt tout le monde.